Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, une fois de plus, la liturgie de l'Église catholique nous parle de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, on voit que c'est une espèce d'idée fixe pour l'Église, d'appuyer, d'insister sur la miséricorde de Dieu pour le pécheur repentant. Nous avons aujourd'hui cette belle parabole, qui est peut-être la plus connue de toutes les paraboles de la miséricorde, celle du bon samaritain. Vous connaissez cette histoire. Donc cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui est attaqué par des brigands, par des bandits, qui lui volent tout ce qu'il a, le laisse sur le bord du chemin à moitié route. Puis voilà qu'un lévite et un prêtre de l'Ancien Testament passent, font rien, et finalement un samaritain s'arrête. Touché de compassion, il s'occupe de ce moribond, il va laver ses plaies avec l'huile et le vin, il va le placer sur sa propre monture et le conduire à l'hôtellerie et donner 2 deniers pour payer tous les frais. Il y a plusieurs interprétations et je voudrais insister sur l'une d'entre elles. L'interprétation la plus connue, je vous l'ai déjà expliqué souvent, c'est que cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam qui perd l'amitié du bon Dieu par son péché. Beaucoup de pères expliquent aussi, et j'aime beaucoup cette explication, je vais l'appliquer pour chacun d'entre nous. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est aussi chacun d'entre nous, chaque fois que nous offensons le bon Dieu. Lorsque nous offensons le bon Dieu, on quitte la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, au sens anthropologique, au sens moral, c'est l'âme en état de grâce. Donc l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est l'âme qui perd l'état de grâce et qui descend vers la terre. On abandonne le bon Dieu. On fait sortir le bon Dieu de notre âme et par la même porte par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ vient de quitter mon âme à cause du péché mortel, mais on fait rentrer une créature, quelle qu'elle soit. Et donc c'est un peu notre histoire ici qui est expliquée. Et je voudrais reprendre en suivant les pères de l'Église, encore une fois ce ne sont pas mes interprétations personnelles, Dieu m'en garde, mes interprétations des pères de l'Église. Je vais reprendre point par point ce que dit l'Évangile et voir comment ça s'applique à chacun d'entre nous. Le premier point important, c'est que l'homme qui est attaqué par le démon, donc qui vient de perdre notre Seigneur Jésus-Christ, vient de perdre son trésor le plus précieux. Imaginez un bateau qui a une cargaison extraordinaire, et bien cette cargaison c'est l'état de grâce. Donc le démon cherche, comme un pirate, à raisonner le navire, à monter sur le navire pour ouvrir les cales et jeter à l'eau la cargaison précieuse. C'est exactement ce que fait le démon à chaque fois qu'il rentre dans notre âme pour nous pousser, après nous avoir poussé à commettre une faute grave. Alors, première question qui se pose, pourquoi cet homme est à moitié mort et pas complètement mort? Quand quelqu'un est à moitié mort, il peut retrouver la vie, il peut retrouver la santé. Donc cet homme est à moitié mort pour bien montrer qu'il a perdu le plus important, à savoir la charité, mais il n'est qu'à moitié mort parce qu'il garde en lui le pouvoir, la possibilité avec la grâce du bon Dieu de retrouver l'amitié du bon Dieu. Donc il a perdu la charité, mais comment peut-il conserver en lui le pouvoir de retrouver l'amitié de Dieu parce qu'il a gardé la foi et l'espérance. Donc il est à moitié mort, il a perdu la moitié de sa vie spirituelle, la charité est partie, mais il reste la foi et l'espérance. Et tant qu'il reste la foi et l'espérance, cet homme est à moitié mort. S'il avait perdu la foi, l'espérance et la charité, il ne serait pas à moitié mort, il serait complètement mort. Donc la foi et l'espérance, heureusement, demeurent en nous même après le péché mortel. C'est ce qu'on appelle une foi et une espérance informe. C'est une foi et une espérance qui sont diminuées, mais qui restent là. Elles gardent le pouvoir de nous ramener à Dieu. Parce que pour revenir vers le bon Dieu, il faut la foi, évidemment. Si je n'ai pas la foi, personne ne va aller se confesser sans la foi. Si je n'ai pas l'espérance de retrouver l'amitié du bon Dieu, par une bonne confession, personne n'irait se confesser. Donc cet homme est à moitié mort, parce que justement, il a gardé la foi et l'espérance. Et la première chose que va faire le Samaritain, donc notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de verser sur les plaies, nous dit l'Évangile, l'huile et le vin. C'est bien sûr le symbole des sacrements. Et derrière ce geste, il y a en fait la première partie, les premières choses nécessaires pour faire une bonne confession, à savoir l'accusation et la contrition surtout. Donc la première étape, c'est d'accepter se laisser soigner. C'est terrible parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se laisser soigner. Ils savent qu'ils sont malades, mais ils ne veulent pas se laisser soigner. Et donc, évidemment, ils vont mourir de leur maladie. Donc, la première étape, c'est d'accepter de se laisser soigner. Accepter de laisser notre Seigneur Jésus-Christ s'occupait de son âme par l'intermédiaire du prêtre. Et donc, cela symbolise la contrition et l'accusation des péchés. Contrition, à savoir la douleur interne, souveraine, universelle, surnaturelle, jointe évidemment au désir d'éviter le péché, donc à la ferme propos, donc d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Et ceci est joint, c'est la première étape, à l'accusation des péchés, en accusant les espèces, l'espèce du péché, les circonstances qui changent d'espèce, et le nombre des péchés graves quand c'est nécessaire, quand ils doivent être dits. Eh bien, ça c'est la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce que fait ce bon samaritain? Deuxième étape, il prend le moribond et le place sur sa propre monture. Et tous les pères de l'Église expliquent de la même façon, cette monture, un âne, c'est le symbole de l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'unit à Dieu, s'unit comme Dieu s'unit à nous, à l'homme, en prenant notre humanité. Et il va charger sur sa propre humanité nos péchés, parce que nous ne voulons pas le faire par nous-mêmes. Nous ne voulons pas réparer nos péchés, donc il va réparer pour nous. Nous ne voulons pas faire pénitence pour nos péchés, donc il va faire pénitence pour nous. Donc, ça c'est la deuxième étape, cette humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ, sur laquelle nos péchés sont placés, représente l'esprit de pénitence. C'est une humanité souffrante. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour souffrir. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour supporter la passion. En tant que Dieu, il ne peut pas souffrir. Donc il est fondamental de garder constamment en nous cette idée que notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement homme. Et que l'état des hérétiques, notamment Étiquès, qui ont nié ce fait, ces hérétiques disaient, mais la divinité étant tellement supérieure à l'humanité, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ a complètement écrabouillé l'humanité, il ne restait plus rien de l'humanité. En fait, c'était Dieu qui manifestait sa présence par une forme extérieure, mais il n'y avait pas un véritable corps humain. C'est gravissime de dire des choses comme ça, parce que si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment homme, donc la passion n'a pas vraiment existé, il n'a pas vraiment souffert. Or, notre Seigneur est vraiment homme. Donc, c'est cette deuxième étape du bon samaritain qui place le moribond sur sa monture, donc ça nous rappelle la nécessité de réparer, donc c'est la troisième étape de la confession, contrition, accusation et réparation. Pour utiliser l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous faut participer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul nous le dit bien, il manque des choses, il faut compléter ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ? Notre participation à nous. C'est ça qu'il faut réparer. C'est pas de se dire, je me confesse, maintenant ça y est, le compteur est remis à zéro, je peux recommencer ma vie comme avant. Pas du tout. Il faut réparer. Pas simplement accepter la petite pénitence donnée par le prêtre, qui en général pas grand-chose, mais surtout réparer dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, accepter de faire pénitence. Si vous ne faites pas pénitence, dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous périrez tous. Rappelez-vous ce que disent les pères, il n'y a que deux voies pour aller au ciel. La voie de l'innocence et la voie de la pénitence. La voie de l'innocence est réservée dans la pratique aux enfants qui meurent juste après le baptême, bébé qui meurt juste après le baptême, ou rares personnes qui n'ont jamais commis un péché de leur vie, ça n'arrive pas tous les matins. Et donc, on a besoin de faire pénitence. C'est pour ça qu'il faut utiliser cette humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ et prendre une partie de la croix, faire un petit peu comme Simon de Cyrène qui est appelé par les soldats romains pour porter une partie de la croix à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas la porter entièrement lui-même, par lui-même. Et donc, il demande notre coopération. Après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le moribond est placé sur la monture du bon samaritain, celui-ci va conduire le moribond jusqu'à l'hôtellerie, l'église. Et là, il va donner deux deniers. Pourquoi deux deniers? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de deniers? Pourquoi deux deniers et pas trois ou un? Et bien, les pères de l'église expliquent donc, que cette hôtellerie, c'est l'église. Le maître hôtelier, c'est donc le pape ou son représentant, l'évêque ou le prêtre pour vous. Et les deux deniers représentent le retour à la charité. Les deux deniers représentent la charité. Pourquoi deux deniers? Parce que la charité, c'est quoi? La charité, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu a été donnée en deux tables. Première table, commandement 1, 2 et 3, commandements qui ont directement Dieu pour objet. Deuxième table de la loi, les commandements 4 à 10 qui ont le prochain pour objet. Et donc, il donne deux deniers pour marquer qu'il faut, dans l'Église, recevoir l'absolution. Une fois qu'on a reçu l'absolution, on récupère la charité. Et on récupère la charité en obéissant à la loi de Dieu, mais à toute la loi. Pas simplement la première table, mais aussi la deuxième table. Vous voyez comment on comprend là la miséricorde incroyable du bon Dieu qui, à partir du moment où il voit un pécheur repenti, qui regrette ses péchés, au moins minimum par contrition, par contrition imparfaite, par peur de l'enfer, mieux par contrition parfaite par amour du bon Dieu, si on rajoute à cette contrition l'accusation des péchés, la réparation, à ce moment-là, le bon Dieu, par le prêtre, pardonne tous les péchés. Mais il faut, pour cela, ne pas rester sur le chemin à moitié mort. Et donc, qu'est-ce que cette parabole explique? Que le pécheur qui est sur le chemin à moitié mort, il ne peut pas venir à l'église par lui-même, tout seul. C'est impossible. Il ne peut pas venir au prêtre par lui-même, tout seul, pour venir se confesser. Il a besoin d'une grâce extérieure, qu'on appelle une grâce actuelle. Souvent, on entend des jeunes qui nous disent des bêtises pareilles, en disant: Ah oui, monsieur l'abbé, je sais que je vais faire des bêtises samedi soir, mais dimanche matin, j'allais me confesser. Mais attendez, pour vous confesser dimanche matin, d'abord, il faut être vivant. Deuxièmement, il faut avoir un prêtre à votre disposition. Troisièmement, il faut avoir reçu du bon Dieu la grâce d'une contrition surnaturelle. Sinon, vous n'allez avoir qu'une contrition naturelle. Et donc, Dieu ne refuse pas sa grâce, jamais, à celui qui la demande avec humilité. Et donc, cette grâce surnaturelle, toutes les grâces sont surnaturelles, cette grâce surnaturelle, qu'on appelle une grâce actuelle, va permettre au moribond d'accepter d'être guéri, deuxièmement, d'accepter d'être porté par l'âme, troisièmement, d'accepter d'aller jusqu'à l'église. Et là, il va trouver le prêtre. On aura la contrition, l'accusation et la réparation. À ce moment-là, le prêtre peut donner l'absolution. Je t'absous tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et rendre la charité. C'est pour ça que la facture est déjà payée à l'avance. La facture est déjà payée à l'avance. Et pour bien expliquer que l'amour du bon Dieu est tellement grand que non seulement il paye la facture à l'avance, mais je dirais il en fait même encore un peu plus, l'Évangile explique que le bon Samaritain, remarqué dans le texte, dit bien à l'hôtelier: Quand je repasserai, s'il y a eu encore des frais supplémentaires, dites-le-moi. Cela nous montre justement l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, à condition qu'on regrette nos péchés. Sans regret de péché, il n'y a pas de possibilité de, il n'y a pas de possibilité d'obtenir le pardon des péchés. Et il faut vraiment penser, comprendre tout ça pour remercier le bon Dieu d'avoir l'Église. Pensez à tous ces gens, des milliards de personnes qui n'ont pas l'Église à leur disposition. Qui n'ont pas à leur disposition, justement, la possibilité d'avoir un prêtre, tout simplement. J'ai un confrère qui m'a téléphoné il y a quelques jours, là, que je connais bien, et qui m'a dit, mais... Le monde est tellement, tellement pourri, on va aller se cacher dans une grotte et puis finir nos jours au fond d'une forêt, dans une grotte, et puis au moins comme ça, on sera loin de la décrépitude de ce monde moderne pour sauver notre âme plus facilement. Je lui dis, mais dites donc, vous êtes prêtre. Le prêtre a un devoir d'être disponible pour les fidèles. Parce que vous êtes dans le monde moderne complètement pourri, mais les fidèles aussi. Et les fidèles, ils ont besoin de se confesser. Les fidèles, ils ont besoin de pouvoir voir le prêtre. Donc, il faut que les fidèles puissent avoir un moyen de contacter ce prêtre pour pouvoir se confesser, pour pouvoir avoir la messe, même si c'est une fois de temps en temps. Et donc, vous devez rester. Vous avez le droit de vous protéger. Pas aller vous mettre au milieu de la place de la Concorde à Paris pour vous faire écrabouiller par le monde. Bien sûr que non. Mais il faut être dans un endroit où au moins les gens puissent venir, même s'il y a une fois de temps en temps, pour avoir accès au prêtre, avoir accès à la confession, avoir accès à la messe, avoir accès au sacrement de la Sainte Eucharistie, savoir que là, ils peuvent appeler pour obtenir un prêtre pour venir extrémiser la vieille grand-mère qui va mourir. Et donc, il faut vraiment vivre dans l'action de grâce. Pensez à ces milliards de personnes, parce que c'est par milliards maintenant, ces milliards de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui croiront peut-être jamais en Dieu, qui n'auront jamais la joie de pouvoir se savoir pardonner par le bon Dieu dans sa miséricorde. Alors il faut vraiment comprendre l'importance de l'Église. C'est pour cela que le démon travaille tellement pour essayer de, autant que faire se peut, de réduire l'Église catholique, littéralement, comme disait le cardinal Pio, à une dimension domestique. Et on voit, c'est ce qu'avait dit notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Donc il faut remercier le bon Dieu d'avoir l'Église catholique. Et l'Église catholique, elle est où actuellement? Beaucoup de gens nous disent, même si l'abbé, on est orphelin d'autorité, donc l'Église catholique, elle a disparu. Non, elle n'a pas disparu, parce que l'Église catholique a la promesse de la vie éternelle, attention. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église. Il a aussi dit qu'à la fin des temps, il n'y aura peut-être plus personne, peu de catholiques, ça c'est sûr. L'Église va rester, mais elle va rester aussi dans les familles, dans les âmes de ceux qui gardent la foi. La foi, l'espérance et la charité, c'est là où est l'Église. Et même dans les familles qui ne gardent peut-être que la foi et l'espérance, l'Église est aussi là parce qu'il reste dans ces familles la possibilité de retrouver la charité par une simple confession, une bonne confession. Et donc l'Église demeure une sainte catholique apostolique, et on peut rajouter persécutée. Elle est une parce qu'il y a une unité de foi, une unité de culte, une unité de gouvernement, et cette unité de foi, de culte et de gouvernement demeure même aujourd'hui, malgré toute la pagaille qui règne. L'Église est sainte parce qu'il y a une sainteté dans la doctrine catholique qui, elle, ne change pas. Donc cette sainteté, la sainteté du fondateur, le fait qu'il y a, heureusement, quelques saints qui traînent à droite et à gauche encore dans l'Église catholique, j'espère, cette sainteté de l'Église catholique ne peut pas être détruite. Elle est aussi apostolique. Pourquoi? Parce que l'Église, même si elle est réduite à une portion congrue, vient des apôtres. L'Église vient des apôtres, la doctrine de l'Église vient des apôtres, le catéchisme de l'Église catholique vient des apôtres, toute la liturgie de l'Église, tout ça vient des apôtres. Et puis elle est catholique parce qu'elle est universelle pour tous les temps, tous les lieux, toutes les personnes. C'est la même Église à Padiès, c'est la même Église à Tokyo ou à Washington, c'est la même Église partout. Il n'y en a qu'une. Et puis il faut rajouter, malheureusement, ce n'est pas une note de l'Église au sens théologique du terme, mais dans la pratique, Un des signes de l'Église catholique, c'est la persécution. L'Église catholique est persécutée. Mais ça nous a été déjà annoncé par avance. Qu'est-ce qu'a dit Siméon à Notre-Dame au moment de la visitation? Un glaive de douleur vous percera l'âme. Et cet enfant que vous portez, que vous venez présenter au temple, sera un signe de contradiction. Et donc, il a annoncé justement la couleur. Un glaive de douleur vous percera l'âme, et bien en tant que co-rédemptrice du genre humain, en tant que médiatrice de toutes les grâces, vous allez devoir participer à cette passion de l'Église qui est une continuation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ne pas se en aucun cas se décourager. Je pense que la lecture, la méditation de cet évangile magnifique du bon samaritain, justement, doit nous rendre espoir. Nous sommes un peu, il faut bien avouer ce qui est, surtout de plus en plus aujourd'hui, un peu comme ce pauvre vagabond qui est à moitié mort sur le bord du chemin. Mais le bon samaritain arrive. Si on appelle le bon samaritain vient tout de suite. Ce bon samaritain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Même si je suis au fond du caniveau, même si je suis à moitié mort, j'ai gardé la foi, j'ai gardé l'espérance. Même si c'est une foi informe, une espérance informe, cette foi et cette espérance me gardent le en quelque sorte, un cordon ombilical avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et si j'appelle, Seigneur, venez à mon aide parce que je suis un pécheur. Alors, le bon Dieu écoute. Il écoute la voix de la personne humble qui reconnaît qu'elle a besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ vient tout de suite. En plus de ça, pour être sûr d'être atteint plus facilement, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné un deuxième moyen. Ou on peut appeler directement notre Seigneur Jésus-Christ, on peut encore passer par sa mère. Notre Sainte Vierge Marie, c'est son rôle. Elle est là aussi. Et notre Sainte Vierge Marie, elle a vu aussi que cet homme est à moitié mort sur le bord de la route, et elle s'approche. Et on peut passer par elle en disant, voilà, prévenez votre fils que je suis en train de mourir, j'ai besoin de lui. Notre Sainte Vierge Marie, évidemment, va faire venir son fils. Et si notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être à cause de certaines de nos froideurs passées, se fait un peu tirer l'oreille pour nous écouter quand on l'appelle, si c'est notre Sainte Vierge Marie qui s'en mêle et qui vient demander l'aide de son divin fils pour tel pécheur déterminé, alors là, notre Seigneur Jésus-Christ, j'irai obéir toujours tout de suite à sa mère et vient immédiatement pour nous aider, nous protéger. Donc gardons cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie, cette dévotion au sacrement de pénitence et cette dévotion à l'Église, plus que jamais aujourd'hui. Croyons la divinité de l'Église, surtout ne pas regarder simplement l'humanité de l'Église qui est bien souffrante actuellement, gardons la foi en la divinité de l'Église catholique. L'Église catholique, bien sûr, n'a plus rien à voir avec, avec l'Église de Vatican II, c'est absolument évident, mais cette Église catholique, elle est toujours là, une sainte catholique, apostolique et persécutée, et ce jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.